Allez, on est parti.
Ouais.
Eh ben JM, bienvenue dans l'émission Un moment convivial sur YB Voice. Je suis très heureux de t'avoir. Je t'ai eu sur France Bleu Isère.
Ouais.
Il y a quelques mois.
Oui, je sais pas, c'était en juin, non? Je crois que c'était au mois de juin.
Ouais, ouais mois de juin, ça. C'était juste après la sortie de ton album.
Ouais, c'est ça.
YB Voice. Première question que je pose à tous les invités, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Ouais, et bah salut, moi c'est JM, j'habite à Clay et je fais de la pop, folk, électro. Mon instrument de prédilection c'est la guitare et je compose pas mal en anglais et un petit peu en français également.
T'habites à Clay, donc c'est à côté de Grenoble?
Oui.
Est-ce que t'as grandi à Clay?
Ouais, j'ai grandi là-bas, ouais.
C'est une belle région, t'aimes bien les montagnes?
Ah ouais, ouais, j'adore ça, c'est vrai que c'est dur de... Enfin, on s'y habitue en fait, quand on part, et, enfin, je veux dire, on s'y habitue, après on part, et quand on revient, et ben, on se dit, ah ouais, quand même, c'est quelque chose.
Ça nous a manqué un peu.
Oui, ça nous a manqué, c'est clair.
Bon, le temps que tu boives un petit coup et que je présente l'endroit où on est, donc on est dans le bar Bijou à Grenoble, qui je remercie de nous accueillir pour un deuxième podcast d'ailleurs pour l'émission Moment Convivial. Le premier, c'est avec l'influenceuse Lolo de Grenoble Foodie. Je ne sais pas si tu connais sur, sur Instagram. Grenoble Foodie, en fait, c'est deux filles, Laura et Amélie. Elles mettent en avant tous les restaurants de l'agglomération grenobloise. Donc tous les midis, elles mangent dans un resto. Elles font découvrir de nouvelles recettes.
Ah ouais, super. Ah non, je ne connaissais pas.
JM, tu as fait quoi comme étude?
Alors moi j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec la musique, j'ai fait un IUT de mesures physiques, juste à côté de la gare là, et ça a été un petit peu galère pour le terminer, mais c'est cool, ça peut servir en tout cas quand on fait un peu de studio ou quoi, d'avoir touché un petit peu à la physique, c'est cool.
Il me semble qu'il y a un des guitaristes les plus légendaires qui a fait ses études aussi dans la physique. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être?
Alors, il me semble qu'il y a... Je crois que c'est un groupe aux États-Unis, et il y en a un qui bosse même encore dedans, il me semble. Il me semble qu'il travaille encore... il fait ses tournées et il bosse. Je ne sais plus quel groupe c'est, mais c'est vrai que c'est un groupe de rock...
Ouais, alors non, c'est pas américain, c'est anglais.
C'est anglais.
Le groupe Queen. Le guitariste, okay. Brian May.
Ah d'accord, ok.
Et aussi a fait ses études dans la physique.
D'accord, ah ouais.
Voilà, donc ça, dès que tu m'as dit mesure physique, j'ai pensé tout de suite à Brian May. Donc voilà, c'est plutôt honorable quand même d'être comparé à Brian May.
Oui.
T'étais quel genre d'élève à l'école?
J'étais très sage quand j'étais petit, j'étais très discret. Et puis c'est vrai qu'après, avec le collège, le lycée, et même quand j'étais à l'UT, j'étais un peu le clown de service quand même.
Ah ouais,
ouais.
Tu rêvais de faire quel métier?
Quand j'étais tout petit, je voulais faire ce que tu fais, journaliste. C'était mon
c'est
rêve.
C'est vrai?
Ouais, 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 c'est vrai.
Tu pourras même être artiste et journaliste.
Ouais, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'était tout gamin. Après... en grandissant, j'avais pas trop de... Je sais pas, je me suis laissé porter.
Ah ouais, tu rêvais pas forcément d'être chanteur?
Non, non, en fait, je me suis mis à la guitare un peu par hasard. Et ça s'est fait très progressivement, quoi. Ce fait de vouloir après composer, de monter sur scène. Ça a jamais été un rêve de gosse. Non.
C'est drôle, c'est plutôt original.
Ouais,
hein.
Ouais, 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 c'était pas une vocation, mais... C'est vraiment de fil en aiguille quand on se met à quelque chose et qu'on est passionné, en fait. Et la passion est née d'un coup, donc il y a tout après qui s'est mis en route, quoi.
Bon, est-ce que tu penses à être journaliste encore plus tard?
Là, non, plus trop, mais peut-être qu'un jour, si j'ai, je sais pas, si j'ai plus le temps ou quoi, pourquoi pas, ouais.
Comment est née ton aventure sous le nom JM?
JM, c'est arrivé en 2017, après, parce qu'avant j'avais un duo aussi, puis j'avais un autre nom de scène avant, en 2010-2011, je faisais que du bar, quoi. Mais JM, ça s'est concrétisé quand j'ai rencontré Jean-Marc Ozer, qui est mon producteur là, avec qui on a produit l'album. Donc c'est arrivé en 2017, ce nom-là, quoi, ce projet un peu différent, puisqu'avant c'était très guitare-voix, et maintenant c'est un peu plus teinté pop électro.
L'album s'appelle Running to the Sun. Combien de temps t'as mis pour le réaliser?
La réalisation, elle s'est beaucoup étalée en fait. Hein. On a fait une partie qui était avant le Covid, c'était en 2018, donc une partie en studio à Montreuil. Après, on est allé à Arcachon chez mon producteur en 2019 pour continuer à faire plus des prises de guitare et de voix. Après, il y a eu le Covid, donc là, on bossait à distance. Et finalement, ça s'est terminé en 2021, donc on a quasiment bossé 4 ans dessus, quoi.
4 ans. Tu pensais au début que ça allait être aussi long ?
Non, je pensais pas. Ça a été très frustrant. C'était très frustrant parce que le Covid, hein, surtout cette période-là, quoi, où on pouvait pas trop avancer. Et puis, il y a toujours des petits imprévus, des imprévus techniques. Mais en plus de ça, bon, on pouvait pas trop se déplacer, on pouvait pas. Donc c'est vrai que cette période-là, elle a été très difficile. Ouais.
Le Covid, tu l'as vécu où ?
J'étais à Clé. J'étais bien, ouais, on était. Moi, il y a mes parents qui sont pas très loin, il y a mes sœurs qui sont pas loin non plus. J'étais avec ma copine, donc. Non, on était à la campagne, c'était très bien, on a eu beaucoup de chance. You gotta clap your hands under the rainbow. Body makes high gain on my guitar. Chikabamalim, chikabamalim. Well, can you raise your speed on the freeway? When you can feel the vibes of the DJ. Push the button. Donc il y a 11 morceaux dans l'album Running to the Sun. J'allais dire To the Deep, mais ça c'est, oui,
c'est un des titres. Comment tu le décrirais cet album?
Cet album, il parle beaucoup de... C'est assez introspectif, en fait. Ça parle beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur. C'est beaucoup des émotions positives ou négatives, ou même des histoires d'amour, d'amitié, tout ça. C'est très introspectif, quand même. On fait beaucoup le point sur ce qu'on ressent. Et c'est un album qui est quand même... je pense qu'il est assez riche, dans le sens où il y a des morceaux... On n'écoute pas 11 fois le même titre, en fait. Il y a un morceau, par exemple, qui est très folk, qui est un peu un clin d'œil aux années 70, c'est le dernier titre. Il y a des morceaux vachement plus électro, des morceaux très rythmés, très enjoués, des morceaux très planants. Donc ce qui est bien, c'est que on s'ennuie pas trop, normalement.
Faire un album un peu en style 360, c'était ta volonté ou t'as eu une direction artistique qui t'a orienté pour, on va dire, varier un peu les morceaux?
Non, justement, la direction artistique, on a quand même essayé qu'il y ait quand même une patte, un son quand même particulier. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des morceaux qui se prêtaient bien à une modification, on va aller sur de la pop ou de l'électro, mais il y a des morceaux qui étaient plus durs à transformer. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché non plus trop à les modifier, on les a laissés un peu tels qu'ils étaient. C'est ce qui fait que c'est assez varié. Mais c'est vrai qu'on a quand même essayé d'avoir un son particulier qui se retrouve un peu sur tous les morceaux, malgré tout.
Alors là, on va passer à une partie que j'adore. C'est les questions que je pose souvent aux artistes, c'est de se concentrer en fait sur un morceau.
D'accord.
Et tu m'expliques un peu son histoire, comment tu l'as créé, quelle philosophie t'as voulu transmettre à ce morceau, ou est-ce que tu l'as composé. C'est le titre du bout des doigts.
Oui, ok.
Est-ce que tu pourrais nous en parler? De quoi ça parle?
Des doigts, pareil, moi, c'est de l'introspection, c'est un peu qu'est-ce qu'on ressent quand on fait de la musique, quoi. Ça parle un petit peu de la vie de vraiment même de guitariste, quoi.
C'est ce que j'allais dire, parce que là c'est une relation de toi et ta guitare.
Ouais, c'est exactement ça, de ce qui m'a inspiré, par exemple, je parle de ça dans le morceau, les idoles un petit peu, les gens qui nous ont marqués. Et c'est vraiment Je sais pas, quand on fait de la guitare, souvent on est un peu dans une bulle, quoi, et c'est un peu ça que je décris en fait, que finalement, quand tu fais de la guitare, il n'y a plus rien d'autre qui compte, et on se contente de peu, on suffit un peu à soi-même en faisant ça, quoi.
Tu te souviens de l'endroit où tu l'as écrit ?
Ouais, je l'ai écrit chez moi, et ça n'a pas duré très longtemps en fait. Il y a eu cette tourne de guitare que j'avais trouvée. Souvent ça part d'une tourne de guitare en fait que je trouve, que je laisse un peu mûrir. À la base je voulais écrire en anglais, et puis finalement je me suis dit tiens, peut-être que le français ça peut sonner. Et c'est vrai que ça m'a pris peut-être une heure pour l'écrire. Bon, après on change, on trouve des détails en plus, on peaufine, mais c'est vrai que ça s'est fait rapidement.
Tu préfères chanter en anglais ou en français ?
Les deux. Les deux, ouais, j'aime bien.
Cette alternance, dès le début, dès que tu as commencé à chanter, tu t'es dit « je peux chanter en anglais » ? Ou il y a eu une phase quand même où il faut perfectionner son anglais ?
C'est vrai que c'est plus parti de l'anglais, parce que je faisais que des reprises au début, j'avais pas un bon accent, hein. C'est sûr que ça s'est perfectionné sur le long terme.
Est-ce que tu faisais comme tout le monde, tu chantais Wonderwall de Oasis, des classiques
oui,
comme ça?
Oui, beaucoup de Nirvana aussi, comme As You Are, Wonderwall, c'est clair, exactement.
Ça, j'en étais
sûr.
Ouais,
les grands.
Tout le monde qui veut chanter en anglais le fait.
Ah ouais, c'est ça, c'est clair. Non, l'accent, ça prend du temps, et on s'en rend compte quand on s'enregistre, on dit ah non, mais là, ça va pas du tout.
Est-ce que t'es bilingue?
Non, je suis pas bilingue.
Donc, on t'a corrigé peut-être pour les paroles?
Oui, les paroles, je les ai envoyées à... Moi, j'ai une tante qui est prof d'anglais et qui m'a corrigé pour les paroles. Ouais,
sur les tournures de phrases, les expressions.
Exactement, les choses qui se disent pas. Et ma copine qui a un très très bon accent anglais, elle m'a plus corrigé sur justement les intonations, les accents, même si d'ailleurs, quand on écoute l'album, c'est pas parfait. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, comme ça.
T'as déjà écouté un album qui était parfait ?
Bah, c'est Nevermind de Nirvana. Pour moi c'est un album que
t'écoutes encore.
Ouais, j'écoute encore. Il est incroyable, quoi.
Quand t'as commencé à jouer de la musique, est-ce que t'étais du genre à jouer dans ta chambre ou plutôt dans le salon pour faire partager à tes amis et à ta famille?
Au début, c'était dans la chambre, hein. Vraiment. Ouais.
C'était... Tu jouais pas à Noël devant la famille
Non, c'est arrivé après, hein. Ça c'est arrivé. Ça a fini par arriver, mais non, au début, c'était vraiment quelque chose de très, très personnel, quoi.
La musique, c'était pour toi?
Ouais, c'était... je veux jouer tel truc parfaitement, et je le faisais... c'était vraiment quelque chose de personnel, quoi.
Tu te souviens de ta toute première scène ?
Ouais, je m'en souviens. Ma toute première scène, c'est quand j'ai vécu un an à Alès. C'est quand à l'époque où je faisais du volley, là où je suis parti.
On va en parler justement un petit peu du volley après.
Et je suis parti là-bas j'avais tout mon matos de musique, j'enregistrais dans ma chambre et tout. Et puis il y avait un restaurant là, c'était un des sponsors du club un jour qui m'a proposé de venir jouer, donc ça a été ma toute première scène.
Beau souvenir.
Ouais, beau souvenir. Ouais, super. Je m'en souviens très bien.
Si tu continues derrière, c'est que ouais, ça a été un beau souvenir.
Oui, c'est vrai.
Tout à l'heure, tu parlais de Nirvana. Quelles sont tes influences, tes autres influences musicales?
Il y a J.J. Cale que j'aime beaucoup. C'est pas très connu, mais il a été beaucoup repris par Clapton.
Ok.
C'est vraiment un monument de la musique. J'adore Jack Johnson aussi. Plus récemment, j'ai découvert Too Fit. J'ai adoré ce qu'il fait. C'est de l'électro blues un peu. C'est vachement bien. Sinon, en français, j'ai beaucoup écouté Louise Attaque, Francis Cabrel aussi, Gérald de Palmas aussi.
Donc ça reste plus ou moins dans ton style musical que tu proposes.
Mm.
C'est vrai que dans toutes les personnes que tu as citées, on retrouve ça un peu
dans ce
que tu fais. Tu parlais tout à l'heure du volley.
Oui.
Donc tu as eu une longue carrière quand même de
volleyeur. Oui, c'est vrai qu'elle a duré.
Moi, je t'ai connu quand tu jouais dans ton dernier club National Lune à Grenoble. Le volley et la musique, c'était compatible ou T'as attendu peut-être la fin du volet pour vraiment te lancer dans la musique?
Non, c'était quand même... ça allait, c'était bien... C'était quand même bien compatible. Ça se passe beaucoup la nuit, quoi. Mais vu que je joue beaucoup tout seul au niveau de la musique, j'arrivais toujours à m'organiser pour faire des concerts. Et au moment où il n'y avait pas les matchs, après, c'est vrai que ça me faisait rater des entraînements. Mais bon, c'est deux choses qui sont très prenantes. En plus, c'est deux passions. Donc forcément, c'est assez énergivore. Et je pense que c'est vrai qu'après, on s'installe vite un peu dans une routine, un peu dans les deux. Et c'était bien, là, je pense que c'était la bonne année pour arrêter, parce que c'est vrai que je me rends compte à quel point je peux plus me livrer et je suis beaucoup plus libre pour mon projet musical. Ouais.
Et d'un côté, est-ce que ça te maintenait vraiment en forme de continuer une activité à haut niveau en sport pour bien travailler en musique?
Oui, ouais, justement, c'est... il faut une rigueur, il faut ça rythme, c'est vrai que ça maintient en forme, donc c'est hyper important, mais c'est aussi, c'est vrai que je sais pas, la musique, c'est un milieu, bon, ça fait vite la fête, au volet aussi hein, d'ailleurs,
oui, oui,
mais justement, sachant qu'il y avait ces deux trucs, oui, ça imposait un peu une rigueur et c'était bien. Et le volet, au final, d'avoir un calendrier à suivre aussi, c'est vrai que ça rythme les semaines et c'est pas mal quand même.
Dans tes soirées au volet, est-ce que tu sortais la guitare?
C'est arrivé, mais pas très souvent quand même. Des soirées volées, bah après les matchs, on va au bar, de temps en temps on allait en boîte, mais... ça s'y prêtait pas forcément trop, quoi.
Donc là, tu as pris la décision d'arrêter cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer le ou les postes sur lesquels tu as joué?
Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup joué libéro.
Ok, donc c'est pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas beaucoup le volleyball. Déjà, c'est celui qui n'a pas le même maillot et qui s'occupe de faire toutes les faces défensives et les réceptions. Est-ce que j'ai bien résumé?
Ah oui, c'est...
Sachant que c'est mon poste aussi.
oui, voilà, non, mais tu l'as bien expliqué. Un poste d'ailleurs.
Très important.
Important et assez difficile psychologiquement. Je trouve que ça demande énormément de préparation mentale parce qu'en fait, le libéro, c'est un peu un poste ingrat dans le sens où quand il joue bien, c'est normal. Et ça se voit pas trop.
Comme le gardien de but au foot. Hein.
Un peu ça. Et quand il passe à travers, on voit que ça.
Ah bah oui.
Et c'est le poste un peu de l'ombre. Et
tu peux vite devenir une cible si c'est un mauvais jour.
Oui, c'est exactement. Et je trouvais qu'on apprend beaucoup sur soi et ça demande beaucoup de préparation mentale, je trouve.
Justement, cette préparation mentale, est-ce que tu l'as utilisée même dans la musique, à te dire que dès que tu as la moindre difficulté, bah, tu as tout de suite, par exemple, l'image du volet où tu peux voir pendant peut-être 15-20 minutes, ça peut ne pas bien se passer, mais tu arrives à vite rebondir. Est-ce que ça te sert aussi dans la musique?
Oui, bah, finalement, c'est peut-être plus le côté musical qui a pu me servir dans le volet.
Ah ouais? Sur quel aspect?
Bah, justement, sur cet aspect-là, c'est-à-dire que je trouve que quand on est tout seul sur scène, en fait, il n'y a personne qui va faire les choses à notre place, quoi. Il faut le faire. Et justement, en fait, ça demande un certain relâchement et ça demande d'être un lâcher-prise, en fait. Il faut l'avoir. C'est bon, au début d'un concert, des fois, c'est difficile, mais après, ça se met en place. Et je trouve qu'en fait, on peut l'avoir dans le sport, cette idée un peu de lâcher-prise. Et puis, justement, dans la musique, il y a quelque chose qui est important, c'est l'échauffement, la respiration. Et les respirations de relaxation, bien respirer, parce que sinon on ne peut pas chanter correctement. Donc en fait, il y a toute une préparation de relâchement qu'on peut transposer à la préparation d'un match de volley aussi. Et pour commencer le match bien concentré.
Avant de monter sur scène, est-ce que tu as une petite routine?
Non, alors moi, il y a juste un protocole d'échauffement, en fait, où c'est peut-être un peu ça ma routine. Parce que moi, j'ai eu des gros problèmes de cordes vocales. J'ai eu un kyste aux cordes vocales.
Ok.
Il a fallu que je me fasse opérer. Ça, c'était en 2015. Et en fait, après, on m'a appris à mieux placer ma voix, à être plus endurant, en fait, pour pouvoir endurer, enchaîner les scènes. Et donc, j'ai un protocole pour m'échauffer. Et c'est quelque chose que je fais à chaque fois.
Justement, question que je n'ai pas posée tout à l'heure sur l'album. Il y a 11 morceaux. T'en as composé combien avant d'en sélectionner 11?
Disons que moi, des morceaux, j'en ai composé une 20-25, je pense, un truc comme ça. Et je pense qu'il y en a que je vais utiliser, que je vais réutiliser plus tard, que je vais un peu peaufiner. Mais ouais, on a un projet d'EP pour faire plutôt 5-6 titres et pouvoir faire des sorties plus régulières, plutôt.
C'est laquelle ta chanson préférée dans ton album Running to the Sun?
Ah là, c'est une très bonne question.
Une.
Je pense que c'est Running to the Sun.
Pourquoi?
Je sais pas, en fait, ce morceau a été complètement changé de la base. Je sais pas, la première fois que je l'ai entendu, en fait, il m'a... Juste l'instru m'a fait quelque chose, en fait. C'est juste la partie instrumentale m'a beaucoup parlé. Mon producteur a beaucoup mis sa patte dedans et tout. Et il m'a fait quelque chose, ce titre. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a appelé l'album comme ça, d'ailleurs. Mais ouais.
Dernière question. À qui conseillerais-tu de venir dans ce podcast?
Ça peut être...
Quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas. Hein.
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, je conseillerais à Gérald Palmas.
Ok.
De venir ici.
Eh ben écoute, je lancerai l'invitation.
Ouais, c'est cool. Ouais, carrément.
Merci, JM.
Et bah, de rien, mais en tout cas, c'était un plaisir.
Bah, plaisir partagé.
Ok, ça marche, c'est cool.
À bientôt.
Ouais, à bientôt, merci en tout cas.
Avec grand plaisir.
Ouais, trop cool.
YB Voice. YB Voice.